c'était qui, il n'est pas là aujourd'hui, puis moi, je ne me rappelle pas toujours. Ouais, je l'ai déjà fait, mais je ne me rappelle plus. Ah, on va y arriver. Il faut être patient. La patience, c'est un don de Dieu. Donc, hein. Parmi nous, Seigneur. Merci de venir nous enseigner aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui? Ok. Ok. Êtes-vous bien assis aujourd'hui? Confortable? Hein? Êtes-vous bien assis? Moi, pas trop. M'a donné ça le Seigneur. Il y a quelque temps, j'ai eu comme un message. Puis ça m'a dit, où es-tu assis? Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui me parle? Et puis, j'ai passé le temps, puis ça m'est revenu, où es-tu assis? Pourquoi tu me demandes ça, Seigneur? Et puis j'étais dans la parole, j'étais voir où c'est que c'est marqué, les gens qui sont assis quelque part. Et ça m'a bien surpris. Vous savez que la parole est là pour nous enseigner. Et Dieu, il fait tout pour nous enseigner. Vous voyez comme il m'a parlé, moi. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'était dans le passé? Où étais-tu assis? Et dans le futur, où tu seras assis? Tout ça, c'est ensemble. Et la parole nous répond à tout ça. Donc, allons voir ensemble ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que je vois que vous êtes bien confortable. Mais moi, je ne suis pas trop. Le Seigneur me dit, il faut que tu te lèves parce que le message, il n'est pas là. Il est là. Seigneur, tu es bon, Seigneur. C'est Seigneur que tu nous enseignes tous les jours et tu nous as dit, tes voix ne sont pas mes voix. Donc, et avant tout, j'avais été une fois dans la parole, et puis ça, je crois que ça revient un petit peu à mon message, parce que ce message-là, je dis, est-ce qu'il y a un message là-dessus? Mais c'est pour moi, Seigneur. Pourquoi je le donnerais à mes frères et sœurs? Mais ça me revenait tous les jours, on me dit, non, non, c'est pas pour toi. C'est pour tout le monde. Je t'ai donné à l'amener. Puis il m'a amené dans Lamentation, justement, et puis dans la Lamentation 3, à partir du verset 28, il me dit, il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel lui impose. Parce que dans une autre version de la parole, ça dit, il se tient assis solitaire et silencieux, parce que l'Éternel lui impose. Mais c'est pas pour ça, il m'impose quoi? Il m'impose d'être silencieux pour moi-même, mais pas silencieux pour vous. Bon, on va commencer notre message. Où es-tu assis en ce moment, dans ta vie? Avez-vous pensé à ça? Ça veut dire, à quelle place vous vous trouvez? Comment vous sentez-vous? Allez voir dans le psaume 1 à 3. toutes les places où la parole nous dit où on est assis. Le psaume 1 à 3 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Déjà, c'est un avertissement. Dieu nous veut une certaine place. Il ne veut pas que l'on s'assoie en compagnie des moqueurs. Il y a des lieux pour s'asseoir, d'autres où il est déconseillé de s'asseoir. S'asseoir au bon endroit, la parole nous dit, ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, quand on est assis au bon endroit, tout ce qu'on fait nous réussit. Mais si on est assis à la mauvaise place, ou qu'on a choisi la mauvaise place, là les problèmes commencent. Souvent. Dans le Proverbe 9, 13 à 17, c'est de la Bible, la nouvelle, parole nouvelle, qui nous dit: la sottise est comme une femme bruyante, ignorante et naïve. Elle est assise à la porte de sa maison, sur les hauteurs de la ville. De là, elle interpelle les passants qui vont droit leur chemin. Vous, les ignorants, faites un détour par ici. Elle déclare ceux qui ont la tête vide, La boisson volée est agréable et la nourriture mangée en cachette est délicieuse. On voit des gens qui sont des fois assis à la porte et puis qui interpellent, puis regardent ce que j'ai, regarde ce qu'il faut faire, regarde quel cadeau tu vas avoir. Attention à ces gens-là. Sont bien bavardes et disent des choses qui ne servent à rien, sinon à détruire. Beaucoup de gens qui sont là à la porte à bavarder, souvent c'est des choses qui ne servent à rien. Ils sont juste là pour parler. Ne nous laissons pas duper. Le péché est dangereux. Souvent, ces gens-là, c'est les pécheurs. Ils veulent vous entraîner dans leur sottise. Et souvent, c'est des beaux parleurs aussi. On a tendance à se laisser influencer. Quelqu'un a dit, j'ai trouvé ça, je l'ai lu quelque part, avant de goûter aux fruits interdits, examinons attentivement la vie de ceux qui le mangent. Vous voyez ce que ça veut dire? Il y a bien des gens qu'on voudrait bien faire comme eux, vivre comme eux. Ça paraît beau et tout, hein. Mais regardez leur vie. Comment elle est leur vie? Souvent elle est pitoyable. Ils cachent derrière le rideau les mauvaises choses. Et notre place, où nous dit assis, il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébenthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il répondit: je le suis. C'était qui était assis sur le térébenthe? Élie? L'homme de Dieu qui était assis sur le térébenthe, il avait été envoyé par le prophète. Le prophète lui avait dit, viens, viens manger, viens boire, tout ce quoi. Mais le Seigneur lui avait dit, ne fais pas ça. Tu passes le chemin. Dieu lui avait dit de repartir sans s'arrêter pour manger et boire. Et après cet arrêt, il va manger et boire, désobéir au plan de Dieu. En s'essayant, il sortait du plan de Dieu. Il avait d'autres projets pour lui-même. Quand on n'est plus dans le plan de Dieu, on devient vulnérable et accessible à l'adversaire, car nous avons créé une brèche. On perd l'approbation de Dieu. Le térébenthe, la désobéissance. Le térébenthe, c'est un chêne. Encore une place où il ne faut pas être assis dans la désobéissance. Une autre place. 1 Corinthiens 8:10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? La tentation. Assis à la table de la tentation. C'est facile d'être là. Il y a tellement de belles choses, tellement de mets succulents à la table de tentation. Vous savez, pas parce qu'on est chrétien que tout est permis. On se dit souvent, oui, mais c'est quand même le Seigneur qui me protège. La liberté chrétienne ne signifie pas que tout est permis. Elle signifie que notre salut ne dépend pas des bonnes œuvres, ni de respect de règles, car c'est un don de Dieu. La liberté chrétienne est donc inséparable de la responsabilité chrétienne. Nous sommes responsables vis-à-vis de Dieu. Nous sommes responsables de nos actes, de nos façons de faire. Il ne faut pas prendre cette liberté pour acquis. On a des comptes à rendre. Pour les chrétiens forts, ne soyez pas fiers de votre maturité et ne faites pas un mauvais usage de votre liberté. Pour les chrétiens faibles, si vous n'avez pas la même liberté que d'autres dans certains domaines, prenez le temps de vous forger une conviction. Priez Dieu, mais ne contraignez personne à adhérer à vos principes. Ça veut dire, si on est un chrétien faible, il y a des forts et des faibles. Il y en a qui ont beaucoup de connaissances, il y en a qui en ont moins, mais c'est normal. Dieu est là pour nous enseigner, il est là pour nous faire grandir. Mais si on ne connaît pas assez, n'allons pas contraindre les autres qui en connaissent moins que nous, ou peut-être plus que nous, par nos convictions mêmes, mais se forger une conviction sur la parole de Dieu. Une autre place où on est assis, Esdras 9. J'ai dit 9. Versets 3 à 6. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis. Désolé. Vous savez, souvent, nous assoyons désolés. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes dans la confusion, dans la culpabilité, dans la honte des fois. Nous sommes là assis et nous pleurons. Tout ça, c'est normal. Dieu nous a fait comme ça. Il nous a fait passer par des bons moments, par des belles chaises, par des mauvaises chaises. Il est facile de prendre le mal à la légère. Dans un monde qui ne lui accorde aucune importance. Mais n'oublions pas l'exemple d'Esdras. Il exprime la honte qu'il ressent, sa peur, ses conséquences et son désir que le peuple revienne à la raison et change d'attitude. Esdras était désolé, lamenté. Il y avait du ressentiment vis-à-vis du peuple qui ne se conduisait pas bien. C'est lui qui prenait tout sous ses épaules. Et ça nous arrive des fois. Que l'on voit autour de nous, que ce soit notre famille, nos amis, nos proches, qui sont dans des situations difficiles, de n'importe laquelle, que nous-mêmes, nous prenons sur nos épaules tous ces fardeaux. On y est assis là, des fois. On est là assis, désolé, effrayé, même se sentant coupable, parce qu'on peut se dire c'est peut-être de ma faute, j'ai pas été là quand il fallait. Non, Esdras a le désir que son peuple revienne à la raison et change d'attitude. quand on est là assis, c'est tout notre désir que tout s'arrange, que tout vienne pour le mieux. Mais nous devons tous aussi aspirer à la sainteté, parce qu'on est saint. Même si nous avons commis le pire des péchés, et qu'on est là assis, désolé, vis-à-vis de nous-mêmes, ça arrive. J'ai mal fait, Seigneur. Je te pardonne-moi de mes péchés. Nous pouvons nous tourner vers Dieu et nous repentir dans la prière. On a tous été là. On est tous passés par là. Et peut-être nous passerons encore par là. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Sachez que Dieu est là dans la prière et il nous donne l'occasion de se repentir devant lui. Un autre endroit où on est assis, 1 Samuel 4:13. Samuel 4, 13. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Dans l'inquiétude, assis de voir l'Église attaquée, de voir notre famille attaquée, inquiet, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que vous êtes arrivé d'être dans l'inquiétude plus souvent qu'à son tour? On s'inquiète pour ses enfants, on s'inquiète pour notre santé, on s'inquiète pour demain. Hein? Demain, c'est demain. Le Seigneur nous dit, ne sois pas inquiet, ne crains rien, vis au présent. Pourtant, combien de chacun de nous s'inquiète pour rien des fois? C'est pas bon pour nous, ça. Mais on y est des fois dans cette position, dans l'inquiétude. Une autre place, Jérémie. Jérémie 15. Jérémie 15, versets 17 et 18. Qui nous dit, je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et elle ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait, Jérémie? Il est assis, là, et il accuse Dieu. Il accuse Dieu. L'accusation. Assis à la place de l'accusation. Vous voyez ce que le Seigneur va lui dire après. Vous savez, souvent on peut être blessé, en colère, effrayé. C'est normal qu'on soit dans la colère. Dieu nous a fait comme ça. Ça arrive qu'on accuse Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça? On l'a dit à nous-mêmes souvent, on ne l'a pas crié, mais on l'a pensé. C'est arrivé, ça m'est arrivé. Et ça peut m'arriver encore. Quand on est blessé, effrayé, en colère, on ne maîtrise pas ses sens, on ne maîtrise pas ses paroles. En réponse, le Seigneur lui rappelle ses priorités en tant que porte-parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur après? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et je te tiendrai devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Voyez, même après l'accusation, Dieu lui répond, je vais te sauver, je vais te délivrer. Et dans ce passage, j'ai trouvé trois leçons importantes. La première, c'est dans la prière, nous pouvons exprimer nos pensées les plus profondes. Vous savez, quand vous priez pour vous-même, vous pouvez dire toutes vos pensées, videz votre cœur. C'est là qu'il faut se trouver, c'est là qu'il faut s'asseoir quand ça ne va pas, quand on est dans l'inquiétude, quand on est dans la colère, hein? Quand on est dans la tentation, quand on est dans la désobéissance, on s'assoit dans la prière et on exprime nos pensées à Dieu. Puis Jérémie lui a dit, « Oh, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je ne me guéris pas. » Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Calme-toi. Je suis avec toi. Hein? Je te délivrerai des méchants. La deuxième leçon, Dieu s'attend à ce que nous lui fassions confiance, quoi qu'il arrive. Dieu s'attend à ce que nous lui faisions confiance, quoi qu'il arrive. C'est pas force. La troisième leçon, nous sommes ici-bas pour exercer une influence sur les autres et les attirer vers Dieu. C'est ça qu'il dit à Jérémie. Ne t'inquiète pas, eux viendront à toi. Je souvent, on a tendance à voir d'autres légendes dehors et puis les prendre pour des ignorants, pour les prendre des incapables, ils connaissent pas Dieu, puis ils vont ci, ils vont là, ils vont aller en enfer. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est les attirer vers Dieu. Et notre place, où on est assis, un roi, 19. Un roi 19, 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Oh. Si. Un genêt, c'est un petit arbre, hein. Comme on a en Europe, il y en a ici, là. C'est pas trop haut. Mais ça fait beaucoup d'ombre, c'est assez écarté. Là. C'est pas la meilleure place pour s'asseoir parce que ça pique un petit peu les branches, etc. En disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est quoi? Il est assis où, là? Il est assis sous un genêt. Et c'est quoi qu'il est? Demandant la mort. Ça vous est arrivé, des fois, de demander la mort? Je ne voudrais plus être là. C'est arrivé. C'est arrivé que des fois, Seigneur, Jérémie, voyez, Job, plein de la parole, ont passé par là. Découragement. Il était découragé. Il est assis sous ce genêt-là, puis il dit, c'est fini, arrête-moi la vie, je ne veux plus n'entendre parler de rien. Découragé. On est souvent là, lassé, fatigué de combattre. Et ça nous arrive d'être fatigué de combattre. Ça arrive. On n'est pas des surhumains. Car on manque de nourriture spirituelle et du repos de Dieu. Car on a nourri de fausses impressions. On s'attendait à tellement de choses. On s'est nourri de ça, de fausses impressions. Et c'est pas arrivé. Donc on se décourage. On laisse aller. On s'assoit sous le genêt. Découragé. Souvent, c'est arrivé après de grandes victoires. On a eu des belles choses, on a fait de belles choses, tout d'un coup, patatrac. Il y a quelque chose qui s'écroule. C'est souvent que ça arrive, ça. On est tellement parti sur un flux de victoires. Hein? Et émotions, les émotions nous gagnent. Souvent, le découragement nous touche après des efforts physiques ou une grande émotion. C'est souvent comme ça. On passe de bons moments, un truc comme ça, puis d'un coup, paf, il y a quelque chose qui arrive et on est à terre. Ça arrive. Ça m'est arrivé. Je parle d'expérience. J'ai bientôt 74 ans, j'en ai vu pas mal. J'ai voyagé, j'ai eu des hauts et des bas comme tout le monde. Et je vous dis, peut-être plus souvent de bas que de hauts. J'ai toujours compté sur la présence de Dieu. Quand nous sentons au plus bas, après une victoire, rappelons-nous que Dieu a encore d'autres objectifs pour nous. Ce n'est pas fini, là. Dieu n'est pas fini avec vous. Il va vous relever, là, puis il dit, OK, il y a un autre combat. Hein, l'armée. Hein, ça arrivait qu'après, qu'une bonne machine, il fallait se relever, puis aller reprendre le sac à dos, puis... Comme dit ça, Dieu c'est pareil. Faut pas compter qu'il va vous laisser là, puis ok, il va vous asseoir dans une belle chaise. Viens, t'es bien tranquille maintenant, passe ta vie là. C'est pas tout à fait ça. Mais Tom, il avait pris sa retraite. J'ai même fait un message et puis oh ben. T'es à la retraite maintenant, mais tu vois que ça n'a pas été pareil. Voyez donc, attendez-vous. Dieu vous utilisera jusqu'au bout. Nous sommes ses serviteurs. Une autre place. Luc 7. C'était les pharisiens et puis les docteurs là, qui étaient devant Jean-Baptiste là, et puis que qui est lui, qui c'est celui-là, hein, pourquoi il se permet ça, hein? Dans 31 et 32, qui nous dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Assis dans l'indifférence. Il y a beaucoup qui sont assis dans l'indifférence. On leur porte la parole, on leur porte la bonne nouvelle. Toujours indifférent. Mais ces indifférents-là, la plupart du temps, c'est des critiques. Ils viennent critiquer. C'est les premiers à critiquer. Vous voyez, l'indifférence, c'est la critique, c'est l'absence d'intérêt. Ils voient ces gens-là qui n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas cherché d'intérêt. Il reste dans l'indifférence. Marc 10. Encore une autre place. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Wow! Il y en avait du cran, hein? Il y en avait du front tout autour de la tête, comme on dit. Hein? Moi, je veux être assis à ta droite et moi, je veux être assis à ta gauche. Hein? Chercher à avoir la première place. Il ne faut pas être assis là. Il ne faut pas chercher à être assis là si on n'a pas été invité. Hein? Souvent, on en voit comme ça, qui veulent avoir la première place, bien en vue. Regardez les pharisiens, là. Hein, eux, c'était les hommes de connaissance et tout, ils voulaient la première place. Ils viennent critiquer, là, que Jean, qui es-tu? Qui est celui-là? Et puis, bababla, bababla. Mais nous, eux, ils prônaient, là. Et c'est les fils de Zébédée qui ont demandé à être pareils. Ces gars-là qui suivaient Jésus avec d'autres apôtres, ils pensaient à qui? Eux, à eux seulement. Ne soyez pas assis à cette place-là. Une autre marque 2. Verset 6. C'est là que je disais tout à l'heure, hein, les pharisiens. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voyez, eux se permettaient de critiquer quelqu'un qui était envoyé de Dieu. Ils blasphèment. Imaginez-vous ces gens-là qui vont dire, oh lui il blasphème, il raconte que des mensonges, n'importe quoi, sans savoir de qui il parle. Ça nous arrive, ça. Ça arrive des fois qu'on me dit, oh, mais qui est lui? Qui c'est celui-là? Apprenons à le connaître d'abord, avant de dire qui il est. Hein? Ça nous est arrivé. Acte 8. Verset 28. C'est l'histoire de l'Éthiopien. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Vous voyez, on apprend dans ce passage-là de la parole, ce gars, il était assis sur son char, il rentrait chez lui, puis il lisait Ésaïe. Mais il ne comprenait pas. Il n'avait pas la connaissance assez approfondie pour comprendre ça. Le Seigneur, dans sa bonté, lui est venu en aide. Il a envoyé Philippe. Hein? Explication de la parole. Ça nous est arrivé, ça nous arrive de ne pas tout comprendre. On lit, on ne comprend pas tout. Il ne faut pas hésiter de demander l'explication à un frère ou une sœur. J'ai pas compris ce que la parole veut dire là. As-tu une idée toi-même pour m'aider? C'est ce que Philippe a fait. Parce que l'esprit m'a sûrement amené quelqu'un pour t'aider, si tu le demandes. Le L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il vint à Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voyez, si vous êtes assez humble pour dire je n'ai pas compris, explique-moi Saint-Esprit, sûr qu'il va amener quelqu'un pour vous expliquer la parole. C'est normal, on ne peut pas tout connaître. Poser des questions. Genèse, on va aller tout au début de la parole. Genèse 1. Non. Genèse. Genèse 18, verset, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ça nous arrive des fois d'être assis devant la maison, assis comme là à l'entrée de sa tente. Tout d'un coup, quelque chose se passe. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Vient supplier le Saint-Esprit de penser à lui, de lui faire faire un geste. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez de votre serviteur, et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, trois mesures de fleurs et de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Hospitalité. La chaise de l'hospitalité. C'est un don de Dieu. Mais c'est un don pour tout le monde. Sûr que là, Abraham, c'était Abraham, demandait beaucoup à Dieu. On va voir plus loin. Mais chacun reçoit ce don. Hospitalité. On va plus loin après, il dit, alors ils lui dirent, où est Sarah ? Ta femme. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah. Ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Vous savez ce qui s'est passé? Sarah a eu un fils. savez pas que vous pouvez avoir des anges, nourrir des anges qui passent devant votre porte. On est assis là, tout d'un coup les anges vont passer. Et qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? Une bénédiction, la bénédiction. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde, comme on dit, mais c'est un don qui est à tout le monde, qui est petit ou grand. Ça veut dire qu'il faut avoir toujours l'œil et l'oreille à ce que le Saint-Esprit nous demande. Esther. Je me rappelle plus où c'est ça. Oui. Esther 6:10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et le roi Aman, il dit, prends le cheval et les vêtements et tout, et va les porter à Mardoché, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de ce que tu as mentionné. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Assis à la porte du roi. Mardoché était là, assis à la porte du roi, pour servir et tout. La patience. Souvent, pas patient. On attend quelque chose, on attend, puis ça vient jamais, on n'est pas patient. Mardoché a été patient. Il a reçu la récompense. Assis à la porte du roi. Nous devons être là souvent assis à la porte du roi à attendre notre récompense, car elle viendra, sûr. La dernière, c'est la meilleure. La meilleure qu'on veut se trouver. Même que si on est encore assis sur cette terre, dans différents endroits comme on vient de le voir, dans des bonnes, dans des mauvaises, il y a une place où l'on veut être assis. Assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Viennent de 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez, c'est la meilleure place que l'on ambitionne d'être. Assis dans les lieux célestes. Savez-vous, frères et sœurs, que vous êtes déjà assis dans les lieux célestes? Nous faisons notre œuvre sur la terre pour l'instant, mais nous faisons partie des lieux célestes. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Hein? Assis à celui qui est assis sur le trône, nous avons notre part là. Nous l'a promis. La vie éternelle, c'est ça. Assis dans les lieux célestes. Waouh. Je ne veux pas vous dire, je me tarde d'être là. Parce que je sais, comme j'ai vu plus tôt, que Dieu a encore des objectifs pour moi. tant que Dieu aura des objectifs pour moi, qu'il va m'utiliser, il va me garder sur cette terre. Les bons et les mauvais moments, les bonnes chaises et les mauvaises chaises. Mais je sais qu'il sera toujours là. Nous savons où nous allons. On a cette chance de savoir où nous allons. Beaucoup ne savent pas. Ils sont assis sur des chaises, assis, désolés, sans espérance. On pourrait dire même sans vie. Parce que la vie sur cette terre, ce n'est pas une vie vraiment. C'est juste un passage. Pour conclure, frères et sœurs, où que vous soyez assis, sachez que Jésus est toujours avec vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu m'as donné, Seigneur. Comme tu m'as ordonné, comme tu m'as imposé, Seigneur, je l'ai transmis à mes frères et sœurs, Seigneur, ici présents. Et à ceux qui ne sont pas là, Seigneur, aussi, Seigneur, je te demande de les bénir, de leur donner la bonne place, de leur faire choisir la bonne place qui est avec toi, près de toi, Seigneur. Merci pour cette journée, Seigneur, et on te demande que chacun retourne à ses occupations, Seigneur, et qu'il choisisse la bonne place pour s'asseoir aujourd'hui et demain et pour l'éternité.